conduire par ton esprit dans ta parole. Merci de nous avoir réunis et je te prie que tu nous éclaires par ton Esprit Saint afin que nous saisissions ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Matthieu. On continue notre petit périple dans les... vous savez quoi ? Les paraboles. Les paraboles on appelait ça les paraboles du royaume, hein, qui sont les paraboles dans Matthieu chapitre 13, dans lesquelles Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à ». Nous avons considéré déjà la parabole du semeur. On avait vu au début la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et puis, nous avons considéré la parabole, dernière fois, la parabole, je crois, du grain de sénévé et du levain, les deux en même temps. Aujourd'hui, nous allons lire ici, à partir du verset 44, la parabole, deux paraboles aussi. Donc 44 jusqu'à verset 46. Donc nous en lisons ensemble Matthieu chapitre 13, verset 44 à verset 46. Donc il est dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà, ce sont deux paraboles assez courtes que Jésus donne ici. Et il continue, on pourrait dire, la description un peu du royaume des cieux. Les deux paraboles se ressemblent. Je pense que ça va, vous voyez qu'elles se ressemblent. Alors là non plus, Jésus ne donne pas d'explication sur ces paraboles. Et les avis parfois peuvent être partagés sur l'interprétation de la... parabole. Avant de regarder cela, on va regarder ce que Jésus dit dans cette parabole, quand même. Quelle est l'illustration qu'il donne ? C'est une illustration. On a dit, il le fait, ça demeure obscur pour certains, mais en même temps, ça révèle les mystères du royaume des cieux pour d'autres. Donc, il dit cette fois-ci que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Okay. Et puis, que quelqu'un trouve ce trésor, il le cache dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il achète le champ pour avoir le trésor. Et puis, dans la deuxième parabole, il s'agit d'un marchand qui cherche des perles, et puis qui en trouve une de grand prix. Et pareil, il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Alors, cacher un trésor dans la terre, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Qui a déjà fait ça ici ? Personne ? Personne à l'âge où on a les banques et des coffres-forts, n'est-ce pas ? Où la monnaie est virtuelle. Parfois, on n'a jamais vu l'argent non plus. On l'a touché. Avant, on disait toucher son argent. On le touchait vraiment, quoi. On avait la liasse dans la main. Aujourd'hui, on dit j'ai touché, mais on n'a rien touché du tout. J'ai vu, on n'a rien vu du tout. Il n'y a que des zéros et des chiffres dans un ordinateur. Et puis, on reçoit, on dépense sans même voir parfois ni les pièces, ni les billets. Mais à l'époque de Jésus, les gens avaient de l'argent, vraiment en pièces, en louis, en écus, comme vous voulez, je ne sais pas, en drachmes, en deniers. Et il arrivait que, par mesure de sécurité, ils cachaient l'un des lieux les plus sûrs pour cacher leur argent était dans le sol. Ils faisaient un trou dans le sol pour cacher un bien. Alors, par exemple, vous vous souvenez d'Achan, dans le livre de Josué qui avait récupéré des manteaux lors d'une bataille avec Josué, et puis il avait, où Dieu avait demandé de dévouer tout par interdit, de tout détruire. Et Achan, lui, il a vu, oh, il a vu un manteau, il a vu, je sais pas moi, de l'or, tout ça. Il a dit ça, je vais prendre ça. Et quand Dieu a fait tomber une plaie sur le peuple, et puis Josué était obligé d'aller voir Achan pour lui demander, bon, mais voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Ils ont trouvé que c'était Achan qui avait quelque chose. Et Achan, il confesse cela, il dit en Josué chapitre 7, verset 21, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar de 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. » Et puis il ajoute, « Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » D'accord. Donc, c'est-à-dire là, ici, pour mettre ça en sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Un trou dans la terre et on cache. Et à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de cachettes là, comme cela dans la terre. Hein. Surtout à l'époque, un historien fait remarquer, à l'époque des guerres juives, hein, avec les guerres, beaucoup de juifs contre les Romains. Et donc l'historien... Il y a un commentateur qui rapporte ce que disait l'historien Flavius Joseph. Peut-être que vous avez lu un peu des textes de Flavius Joseph, hein, qui était contemporain, hein, de cette époque, de Jésus, tout ça. Il écrit « L'or, l'argent et le reste des biens les plus précieux que les Juifs possédaient, pendant ce temps de guerre, hein, que les Juifs possédaient et que les propriétaires chérissaient, étaient enfouis dans le sol afin d'éviter de grossir les butins de guerre. » Donc, pour empêcher qu'on les prenne, eh bien, c'était le lieu privilégié pour cacher, pour mettre en sécurité sa fortune. Et Jésus parle donc d'un homme qui peut-être travaillait dans un champ. Visiblement, le champ n'était pas à lui. Il travaillait dans un champ et qui, on peut penser, qui labourait peut-être, j'en sais rien, ou qui faisait autre chose et qui tombe sur ce trésor. Ici. Et probablement que quelqu'un avait caché, peut-être que le propriétaire était déjà mort, peut-être on ne sait pas, ou il n'était plus là, il avait été déporté, on sait rien, mais cette cachette-là, ce trésor-là, quelqu'un tombe dessus. Hein. Et on ne tombait pas comme ça tous les jours sur un trésor dans un champ. Hein. C'était quelque chose qui pouvait arriver une fois, hein, dans la vie de quelques personnes exceptionnellement. Et cet homme, il tombe sur cela. Et puis, bien sûr, il achète le champ pour avoir ce trésor. Donc, c'est tout à fait compréhensible pour les Juifs de l'époque. Quand Jésus raconte ça, c'est quelque chose qui pouvait arriver. C'était l'habitude de cacher l'argent dans le sol. Deuxième histoire que Jésus raconte, qui est un peu similaire, mais pas tout à fait. Il parle cette fois non pas de quelqu'un qui tombe sur un trésor dans un champ, mais il parle de marchand qui, c'est un homme qui voyage, hein, qui est un négociant, il fait de l'import-export, on pourrait dire. Hein. C'est un homme qui voyage à la recherche des perles précieuses, hein, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit ici, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Donc, il cherche des perles précieuses. Et c'est son activité habituelle. Il est expert en perles. Hein? Je ne sais pas si vous êtes expert en perles. Hein? Moi, on pourrait me vendre n'importe quoi en me disant que c'est une vraie perle. Je ne serais pas capable de faire la différence entre une vraie et pas une vraie. Mais visiblement, cet homme, il avait l'œil, il était capable de reconnaître les belles perles. Il savait les distinguer. Il savait non seulement distinguer entre une vraie et une fausse, mais il savait distinguer entre une belle vraie perle et la perle de grand prix, hein, qui fait la différence. C'est ce que Jésus souligne ici. Hein. Il avait donc ce regard avisé. Et un jour, à force de voyage, il trouve une perle de très grande valeur, plus que toutes celles qu'il a déjà, avec lesquelles il a déjà négocié. Et donc, il décide de vendre tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Encore une fois, une deuxième histoire qui est facile à, à comprendre. Alors, pour aller plus loin, on pourrait se poser la question, ici, puisque les deux histoires sont similaires, il est évident qu'elles visent le même enseignement. Le tout est de savoir quel enseignement visent ces deux paraboles. Regardons d'abord quelles sont les similitudes et les différences dans ces deux histoires. Donc, d'abord, les similitudes. Qu'est-ce qui est identique dans ces deux histoires, selon vous? À vous de travailler un peu. Qu'est-ce qui est identique dans ces deux histoires? Qu'est-ce qu'il raconte qui est pareil dans ces deux histoires? Enfin, qui est pareil, similaire. On trouve quelque chose, d'accord? Les deux trouvent quelque chose, d'accord? La grande valeur, d'accord? Donc, toutes les deux paraboles, on pourrait dire, parlent de quelque chose de grande valeur. Trésor et perle. Oui? D'autres choses? J'ai entendu? Ça, c'est une des choses que l'on voit. Les deux paraboles montrent aussi qu'ils vendent tout. D'accord? Tout ce qu'ils ont trouvé? Tout ce qu'ils avaient. D'accord? Donc, ils vendent leurs anciennes possessions pour pouvoir posséder le trésor. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire?
Acquérir.
Voilà. Ils veulent acquérir. Tous les deux, ils acquièrent le trésor. D'accord? Alors, je vais ajouter que tous les deux insistent sur la détermination pour acquérir le trésor. Mais quelle est la différence? Quelle différence on peut voir entre les deux? Ça, c'est des similitudes, à peu près. D'accord? Quelle différence il existe entre les deux? Les deux histoires?
Le premier, il tombe par hasard.
Oui.
Le deuxième, il cherche.
Voilà. Le premier, il semble qu'il tombe sans chercher, vraiment, sur le trésor. Hein. Et puis, le deuxième, il cherche, d'accord? Donc, il était déjà en train de chercher des perles. Sa pensée était déjà sur les perles. Donc, il y a une, on pourrait dire, l'un c'est presque accidentellement et l'autre c'est intentionnellement, un peu, quelque part, d'accord? Que l'on peut, voir cela. Alors, ça c'est une chose. Et la grosse différence qu'il y a en gros entre les deux paraboles. Alors, c'est quoi l'enseignement de cette parabole dans le fond? Qu'est-ce que Jésus cherche à enseigner ici? Il y a à peu près deux manières d'aborder les choses. Il y a certains qui pensent, commentateurs qui disent que les hommes là ici représentent Jésus. Qui a donné tout ce qu'il avait, quitté son ciel, abandonné tout ce qu'il avait pour sauver, d'accord, des âmes qui sont alors à ses yeux le trésor, qui sont alors précieuses à ses yeux. Et donc, ce texte parle un peu de Jésus, comme dans les autres, au moins dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, où celui qui sème, c'est le Fils de l'homme, ici. Et donc, probablement, ici, l'homme dont il est question, c'est encore Jésus qui vient, qui donne tout ce qu'il a pour chercher et sauver. Hein, ce qui était perdu. Alors, on peut la comprendre comme ceci, mais je crois c'est forcer un peu le trait de la parabole parce que ici dans l'évangile on voit que dans la parabole on voit qu'il y en a un qui tombe accidentellement sur quelque chose et puis l'autre qui cherchait et puis un jour il tombe sur quelque chose. Jésus, il sait qu'il est venu chercher. Il vient, la Bible dit que nous avons été choisis dès avant la fondation du monde. Donc, c'est quelque chose qui est clair. Ses enfants sont ses enfants. Il les connaît par leur nom. Il dit, mes brebis, je les connais par mon nom. Même celles qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Mais avant ça, il avait déjà dit que mes brebis, je les connais par leur nom. Donc, il y a une connaissance ici de Jésus, de ses enfants, qui fait que quand on dit qu'il est l'homme ici et qu'on le présente par quelqu'un qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve et qui va donner tout ce qu'il a pour pouvoir prendre, je trouve que c'est que ça force un peu, mais on peut, pourquoi pas, le comprendre ici. Il me semble quand même que le sens de ce que Jésus dit ici, c'est d'enseigner la valeur vraiment du royaume des cieux, le caractère extrêmement précieux du royaume des cieux. De même qu'il avait montré dans les paraboles avant un peu le royaume qui croit, hein, il dit, il s'étend, il s'accroît un peu ici. Hein. Ici, il montre le caractère profondément précieux du royaume des cieux. D'accord. Sinon, on dirait, si on prend l'autre manière de voir les choses, on dirait que la parabole montre le caractère vraiment précieux du pécheur que Jésus vient chercher. On voit que Jésus insiste par deux fois sur le trésor d'un côté et la perle de grand prix de l'autre, ici. Et il dit que le royaume des cieux, c'est comme, je le relis ici, hein, c'est comme, je sais pas au bon chapitre là, le royaume des cieux, c'est comme semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux, 45, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et puis qui trouve une perle de grand prix. Hein. Donc il y a ici l'idée de la préciosité de quelque chose que Jésus souligne. Et je crois que cela montre la valeur. On pourrait dire ici, j'ai trouvé quelqu'un qui l'a résumé ainsi, que le point central ici de la parabole, c'est de montrer quelque part que quand quelqu'un est convaincu par la valeur du royaume de Dieu, cela impliquera forcément de sa part une détermination et un renoncement à tout dans le but de gagner ce royaume quelque part. Okay? Alors certains diront, oui, mais on ne peut pas acheter son salut, on ne peut pas vendre, acheter son salut. L'idée n'est pas, on va le voir un peu tout à l'heure, mais l'idée n'est pas ici d'acheter ou de vendre, mais de montrer un peu la détermination avec laquelle on cherche à s'accaparer de ce précieux trésor. Donc d'abord, la valeur élevée du royaume, je crois que c'est ce que Jésus montre ici. Hein. Et l'évangile parle de cette valeur élevée de Christ, par exemple. Il dit, Colossiens 2, verset 2-3, dit que nous sommes enrichis. Non, l'apôtre Paul prie pour que les croyants soient enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir qui ? Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc quelque part, on peut dire qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qu'un homme peut désirer. L'apôtre Paul, quand il parle en Philippiens, on a vu ce passage dimanche à l'église de Sarcelles, il dit qu'il parle de ce qu'il fait à cause de quoi ? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pour lui, c'est un trésor. C'est un trésor. On trouve dans les psaumes, par exemple, que les commandements de Dieu, les jugements de Dieu sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Donc il y a un côté superlatif de ce qui concerne Christ, qui concerne la parole de Dieu, un petit peu. La sagesse qui vient de Dieu, hein, nous dit-on, dans Proverbe 3,15, il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse hein. ». Ça fait penser un peu à cette histoire, quelqu'un qui trouve quelque chose. Hein. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Un peu. Donc on peut penser peut-être à cela dans le sens, voilà, Jésus met en évidence ici le caractère précieux du royaume de Dieu. Alors comparant à la perle, comparant ici au trésor que l'on trouve, mais surtout en montrant que celui qui est, en montrant ce que fait celui qui est convaincu de la valeur de ce royaume. Et il faut se rappeler que Jésus parlait aux Juifs, il a commencé à parler en parabole au moment parce qu'il était rejeté. Les Juifs le rejetaient, et puis dès lors, il commence à parler en parabole, et il dit des choses qui concernent le royaume des cieux à ses disciples, et ça demeure caché à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Donc on pourrait dire quelque part, il montre à quel point ce qui est rejeté par les uns est précieux à considérer pour les autres. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, donc le caractère précieux, élevé, la valeur extrêmement élevée du royaume. Mais deuxièmement, on pourrait dire que ce que souligne cette parabole aussi, c'est que le royaume de Dieu exige le renoncement à soi. Le royaume de Dieu exige le renoncement à soi. Les deux hommes vendent tout ce qu'ils avaient afin d'acquérir les perles, d'acquérir le trésor ici. Ils ne tombent pas sur quelque chose, ils disent « Ouais, c'est peut-être intéressant, ça, etc. C'est bien, j'aime bien cette petite caisse-là de louis d'or, ça brille, c'est pas mal, mais je vais laisser ça là et puis un jour on verra. » Ils ne font pas comme ça. Celui qui a trouvé la perle, il ne dit pas « Oui, c'est vrai que ça, c'est pas mal, mais j'ai déjà quand même tellement de belles perles, même si celle-là, elle est quand même d'un plus grand prix, c'est pas grave. » Non, on voit ici que ces deux hommes, quand l'un tombe sur le trésor et l'autre, il trouve cette perle de grand prix, ils sont profondément convaincus de la valeur de ce qu'ils ont et ils vont tout faire pour pouvoir acheter cette perle et acheter ce champ. Lui, il va même acheter le champ pour pouvoir avoir le trésor qui se cache là-dedans. Alors, il est clair ici que Jésus n'est pas en train de dire qu'on acquiert le royaume de Dieu à prix d'argent, qu'on va pouvoir donner tout ce qu'on a pour en retour avoir le royaume de Dieu. On est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Le royaume, il y a un passage où Jésus dit que votre Père a jugé bon de vous donner le royaume, c'est un don de Dieu. L'homme pécheur ne peut absolument rien offrir pour espérer entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Nicodème ? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, la seule manière d'entrer dans le royaume des cieux, c'est que Dieu lui-même agisse et le fasse. C'est par grâce. Il faut être régénéré et recevoir l'esprit de Dieu. Donc, le salut ne peut pas être acheté. C'est un don gratuit. D'accord ? Mais en parlant de vendre ici, ce que Jésus donne, c'est une image du renoncement sans lequel on ne peut pas être son disciple véritablement. Et on ne peut pas prétendre être enfant du royaume de Dieu. C'est ce renoncement qui fait que l'on va accepter de tout abandonner pour avoir pleinement, saisir pleinement ce que Dieu donne. Et c'est cet enseignement, Jésus le donne lui-même par ailleurs. Vous vous souvenez de l'homme riche, par exemple. Le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Regardez ça dans Matthieu chapitre 19. Le jeune homme riche qui vient voir Jésus, ici. Le jeune homme riche, donc Matthieu chapitre 19, qui vient voir Jésus. Et au verset 16, il dit... Un homme s'approcha et dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir quoi ? La vie éternelle. » Il cherche la vie éternelle. Et Jésus lui répond, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Cela est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels, dit-il ? » Et puis Jésus répond, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Est-ce que vous croyez que Jésus dit à cet homme que pour avoir un trésor dans le ciel, il suffit de vendre tes biens et de distribuer aux pauvres? En substance, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il ne dit pas qu'il suffit à un homme qui a de l'argent de vendre ce qu'il a, de le distribuer aux pauvres, et parce qu'il a fait ça, il sera au ciel. On sait bien que ça ne marche pas. Il y a des gens qui font ça à longueur de journée. Enfin, il y en a pas mal, hein, en tout cas, peut-être pas tous, mais et qui peuvent distribuer le bien. L'apôtre Paul dit, si je donnais tous mes biens, si je donnais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, il ne suffit pas de donner et de vendre, de se déposséder de tout pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas ça donc qu'il est en train d'enseigner ici. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regardez plus loin. Il dit, après avoir entendu ces paroles, verset 22, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Oui, il s'agit d'entrer dans le royaume des cieux ici. On est dans la même chose ici. Il, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok, royaume des cieux, royaume de Dieu. Donc il est question ici d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas vendu ses biens qu'il n'entre pas. C'est parce qu'il a montré, qu'il était profondément attaché à toutes ses richesses et qu'il préférait ses richesses à Jésus lui-même. Et quand Jésus dit que celui qui trouve le trésor dans le champ, il vend tout ce qu'il a et il achète, il dit c'est ainsi qu'il faut être vis-à-vis du royaume des cieux. Il y a un renoncement à tout ce qui peut être une entrave pour pouvoir recevoir pleinement un Christ. Il dit, c'est ainsi, le royaume des cieux, c'est comme ça. C'est-à-dire que celui qui prétend être un chrétien, il doit renoncer à tout. Et il l'a dit après, en Luc 14, il dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, ou ses frères et ses sœurs, il ne peut être mon disciple. Alors, on va aller prendre quelqu'un dans la rue qui hait ses parents. On va dire, ah, mais il hait ses parents, c'est un chrétien. Non, pas du tout. Hein. Personne ne penserait comme ça, on est d'accord. Mais c'est en comparaison, hein, c'est-à-dire qu'il y a un renoncement. Si jamais, Jésus dit, la relation familiale devient telle que ça empêche de le suivre, c'est un problème. Il faut être capable de renoncer à tout ce qui peut être un obstacle pour suivre véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Et à ce titre, il dit que le royaume, c'est cela. Il dit, c'est vraiment être dans le renoncement, dans la détermination de saisir Christ au point de regarder toute chose comme rien du tout. Et qui c'est qui a fait ça? L'apôtre Paul, je vous le lis dans Philippiens. L'apôtre Paul dit ces choses, Philippiens chapitre 3, il dit tout ce qu'il était. Et il parle de bonnes choses, hein. Il ne parle pas que de mauvaises choses, il parle de bonnes choses qu'il a acquises, la connaissance, l'érudition, toutes ces choses. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez? Et je trouve que c'est un peu le pendant de Paul de ce que Jésus dit dans cette parabole. Il dit, il courait après toutes ces choses. Paul, c'est un peu le chercheur de perles. Il cherchait, il voulait vraiment faire ce qui est bien selon la loi, etc. Il pensait qu'il pouvait être sauvé par sa propre justice. Il y avait toutes ces perles de la loi qu'il enfilait les unes après les autres. Et puis un jour, sur le chemin de Damas, se révèle à lui la perle de grand prix. Et il dit dans Galates, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Il dit, lorsque Christ, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de se révéler à moi, et tout le reste, c'est devenu de la boue. Et maintenant, mon désir, c'est de saisir Christ, parce que j'ai été saisi. Je suis déterminé à le saisir, lui. Et il dit même, et ainsi je le connaîtrai dans la communion de ses souffrances, dans la puissance de sa résurrection, afin de parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il montre cette détermination qu'il a à chercher et à poursuivre Christ. Et Jésus dit que c'est ainsi que l'on doit rechercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça, c'est l'ensemble de gens qui sont tellement déterminés de la valeur de ce royaume, de la valeur de Christ, de la valeur de l'évangile, qu'ils laissent tout tomber dans leur vie pour suivre Christ. Ils renoncent à tout. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de père, pas de mère, etc. Mais ça veut dire que si ces choses se dressent un jour pour s'opposer à l'évangile, ils regarderont ça comme de la boue. C'est des perles, mais ce n'est pas la perle de grand prix. D'accord. Et donc, ils renonceront à tout pour cela. Donc, je peux dire ici que ce que Jésus montre ici, c'est que le royaume exige vraiment un grand renoncement. Et tous ceux qui suivent, les véritables chrétiens qui veulent suivre Christ, doivent le suivre de cette manière-là. Ces hommes, on le voit, ils ont acheté le champ, l'autre a acheté la perle, ils ont fait l'acquisition réelle et effective de ce trésor. Et même si la manière de découvrir l'objet et de découvrir la valeur était différente, hein, y a des gens qui ne cherchaient pas et puis qui tombent sur l'évangile. Hein. Ésaïe 65 dit, Dieu dit, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Hein. » Un peu comme cet homme dans le champ. Il fouille ça et puis il tombe sur... Il attend quelqu'un qui parle, et puis ça y est, et puis il est saisi, et puis finalement, ah oui, ses yeux s'ouvrent, Dieu ouvre son cœur, et puis il embrasse l'évangile. Et puis il y en a d'autres qui sont très religieux, qui cherchent beaucoup religieusement des choses, et puis le jour où Dieu les touche, le Dieu les visite, leurs yeux s'ouvrent, et ils abandonnent toutes ces recherches, toutes ces philosophies, cette justice propre, pour se saisir vraiment de Christ avec une grande détermination. Et je crois que Jésus montre que les choses spirituelles, le royaume de Dieu, Christ, l'évangile, toutes ces choses sont dignes d'un grand amour, d'une grande affection de la part du croyant. Et c'est ainsi qu'est le royaume de Dieu. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est notre intérêt pour le royaume de Dieu? Quel est notre intérêt pour les choses qui concerne le royaume de Dieu? Par quoi notre vie est-elle motivée? Vers quoi est-elle tendue? Qu'est-ce que nous recherchons le plus en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous, comme quand nous le chantons, chercher d'abord le royaume des cieux, c'est ce que nous recherchons? Ou est-ce que c'est place dans la société, une ambition, autre chose, toute autre chose? C'est une question que ce passage devrait nous poser, parce que Jésus dit, c'est ainsi que le royaume de Dieu. Personne profondément en Christ qui aime, qui affectionne et qui recherche pleinement, qui abandonne tout pour pouvoir suivre Christ, pour pouvoir le rechercher, faire de Christ le trésor le plus précieux de son cœur. Ces gens qui sont convaincus que tout abandonner pour suivre Christ, eh bien, comme quelqu'un disait, c'est le meilleur des compromis que l'on peut avoir. Et vous voyez dans la première parabole, il dit que cet homme, il vend tout ce qu'il a, il le fait avec joie. Il y a une joie même à le faire. Et on cite certains hommes dans le temps qui disaient que ils ont servi Christ toute leur vie. Ils ont tout abandonné, mais il dit que ça n'a jamais été vraiment un sacrifice. Tellement ils ont été au bénéfice de la paix, de la joie, de la grâce que Dieu donne. Ce qu'ils ont abandonné, ce n'était pas pour eux même un sacrifice. Ils l'ont fait avec joie, à cause de la conviction qu'ils avaient du caractère précieux du royaume de Dieu, du caractère précieux de Christ, de sa parole et de l'Évangile. Qu'il en soit ainsi aussi pour nous, chaque jour dans notre vie. Que Dieu mette en nous ce désir pour aimer sa parole, pour aimer l'Évangile, pour aimer Christ, pour nous attendre au royaume des cieux. Que nous le recherchions avec beaucoup de détermination, que nous le saisissions aussi par la foi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Je te prie que tu nous aides encore à l'aimer davantage, à t'aimer davantage, Seigneur, à renoncer à ce qui nous empêche encore de nous abandonner complètement à toi. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous et que ta parole pénètre nos cœurs au plus profond de notre être. Et germe en nous et vive en nous pour la gloire de ton nom. Amen.